La plante, c'est la vie. Nous avons une dimension spirituelle qui est absente. Or, on ne résout pas toutes les questions par la mécanique.
CO2, mon amour.
Il manque une dimension dans cette écologie qui devrait tenir compte de valeurs qui sont beaucoup moins distinguables, beaucoup moins évidentes, mais qui pourtant sont évidentes en notre fort intérieur. Et justement, la nature est là pour nous faire douter.
Denis Chessou.
D'abord douter de nous-mêmes et nous renforcer, quand on l'observe finement, de notre vulnérabilité à tout niveau.
L'homme qui parle s'appelle Jean Maison, on va le retrouver, c'est donc un homme qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans cette dernière émission de la saison, donc CO2 mon amour, avec Maxime Ingrand aujourd'hui à la technique, et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors le marronnier d'autrefois était un arbre qui nourrissait surtout les cochons. Médiatiquement, c'est la Saint-Jean. Le 24 juin revient avec sa boîte d'allumettes. On met le feu à la nuit pour fêter le solstice d'été qui a lieu d'ailleurs le 21. Depuis la nuit, les temps païens ont fait de grands feux. C'est la Saint-Jean depuis plus de 20 siècles. Ce prénom traverse les années. Une date dans la mémoire magique. Les feux de la Saint-Jean sont l'exacte symétrique des feux de Noël. Il fallait un saint bien solide, bien capé, de l'importance de Jean-Baptiste pour être placé en symétrie avec Jésus et plaqué sur des dates qui, dans l'hémisphère nord, cristallisent une multitude de croyances basées sur l'astronomie préhistorique. Les filles, les gars, les petits-enfants, dès le soir tombé, vont se trémousser en bacchanale folle, drôle de farandole, se gorger de coca et de boissons maltées autour de grands brasiers et même parfois s'enhardir jusqu'à sauter parmi les étincelles, parmi les étoiles. Les anciens versent une larme nostalgique, les pompiers sont inquiets, rapport à la sécheresse, les oiseaux sont un peu flippés car cette liesse populaire envahit leurs prairies. Et ouais, ils ont eu assez de mal aujourd'hui à nourrir leur nichée. Alors ils sont rentrés au nid et ont prudemment passé le relais aux pipistrelles qui zigzaguent à la chasse aux moustiques en essayant de ne pas se brûler les ailes aux grands flambeaux qui montent dans la nuit d'été. Alors c'est vrai que c'est beau. Et ça nous renvoie aux temps anciens, au culte du soleil, créateur de toute vie. Cette mémoire des hommes, vêtus de simples peaux de bête, de colliers, de coquillages, qui ne craignaient qu'une chose, que le ciel leur tombe sur le front. 21 juin, solstice d'été, dans notre hémisphère nord, c'est le jour, oui, le plus long. Alors, feu de joie, symbolisant l'inépuisable énergie du soleil. Et à travers les feux de la Saint-Jean, la fête païenne fut quand même bien récupérée par la chrétienté. Ah, oui, ma bonne dame, la notion de recyclage ne date pas exactement d'hier. Et nous ne serons pas rabat-joie en évaluant le bilan carbone des feux de la Saint-Jean, d'autant que plus les jours allongent, moins on allume la lumière. Et puis, le plaisir, le bien-être, une fête de la musique, par exemple, une fête de la vie, avec ceux qu'on aime pour ranimer la flamme, ça n'a pas de prix. Ce soir, laisse tomber ta calculette à CO2, mon amour. Faut juste faire gaffe aux incendies. Laisse monter la flamme, laisse monter la joie. N'ayez pas peur, elles ne lécheront jamais, jamais le cœur des étoiles. Et pour cette dernière, on a envie de regarder, de lever les yeux au ciel avec un homme qui connaît bien ces étoiles. Bonjour Guillaume Canard.
Bonjour Denis.
Voilà, vous voyez, on est presque raccord donc avec vous parce que vous êtes un homme qui observait ces étoiles depuis longtemps. Tous les ans, vous sortez votre guide du ciel, là, 2017-2018, aux éditions AMDS. Et alors, vous qui êtes actuellement dans le Midi, vous êtes chez vous, dans le département de l'Hérault. Je sais que vous avez marché, donc il n'y a pas longtemps, dans les Cévennes voisines et vous étiez sous la nouvelle lune. Et que se passait-il là?
Ah, c'est le meilleur moment pour voir le ciel. C'est vrai que en ce moment, c'est vrai qu'avec les feux de la Saint-Jean, c'est un bon moment pour sortir et regarder au-delà des escarbilles jusqu'aux étoiles. Mais bon, on a aussi la lune en ce moment qui est un petit peu gênante. Alors que au moment de la nouvelle lune, on peut profiter d'un ciel parfait, d'un ciel tout noir dans lequel on voit apparaître des milliers d'étoiles et puis on voit surtout apparaître la Voie lactée, quoi. Et là, récemment, j'ai été marcher. Il se trouve que j'ai relu récemment le voyage dans les Cévennes de Stevenson, oui, avec son âne
Modestine.
Et j'ai eu envie d'aller marcher. J'ai été marcher sur le Cosmé-Jean et autour de Nivolier, dans ces coins-là, vers Florac. Et c'était absolument superbe. Il faisait pas encore très très chaud. Il faisait pas aussi chaud que maintenant. Et les nuits étaient somptueuses avec un ciel d'une noirceur absolue. On a la chance. Moi, j'ai la chance d'habiter à côté des Cévennes, qui sont un des rares endroits en France où on a encore un ciel vraiment noir la nuit, et avec la Voie lactée qui se détache et qui se découpe d'un bord à l'autre du ciel. Et ça, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai dormi à la Belle Étoile toutes les nuits, un petit peu d'humidité le matin, mais en même temps, ça permet, quand on se retourne, qu'on se réveille, qu'on voit ce plafond étoilé, couvert de galaxies, couvert de constellations qu'on redécouvre les unes après les autres. C'est vraiment des moments extraordinaires qu'il faut inciter les gens à vivre, parce que en plus il y a pas que les étoiles, il y a les sons de la nature, il y a les grillons d'Italie le soir au coucher du soleil, et puis il y a les oiseaux qui pépillent une bonne partie de la nuit, les pipistrelles qu'on voit passer dans tous les sens. Enfin bon, il y a vraiment toute une ambiance, toute une atmosphère qui favorise la respiration. On est dans une société où on est sans arrêt en train de courir après quelque chose, en train de regarder un mail, un ceci, un cela. Là, on peut, pendant quelques jours, quelques heures, respirer, se laisser aller, écouter et observer.
Et dans cette écologie, c'est vraiment les meilleurs moments. Dans cette écologie cosmique, Guillaume Cana, donc on a quand même quelques stars en ce moment. Il y a Jupiter, il y a Vénus.
Jupiter, on la voit tous les soirs. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, on a des belles planètes à tout moment de la nuit, puisque Jupiter, on la voit le soir, et ça va être comme ça presque tout l'été. Sitôt après le coucher du soleil, quand on regarde au-dessus de l'horizon sud, et puis bientôt sud-ouest, on voit un point très très brillant, c'est la planète Jupiter. Et puis, une heure, deux heures après, quand la nuit s'est installée, on regarde vers le sud-est, et là, on voit Saturne. Saturne qui est en plein milieu de la Voie lactée. Alors si on est en ville, on voit pas la Voie lactée autour, mais si on est parti en vacances dans un coin un petit peu reculé, on peut voir se dessiner autour les constellations du Sagittaire, du Scorpion, d'Ophiuchus, et ça c'est très très beau. Et puis vers le matin, à l'aube, avant que le soleil n'arrive, là on a Vénus, plein est, oui, qui brille intensément, puisque Vénus c'est la planète la plus brillante dans le ciel de la Terre.
Notre très belle étoile du berger. Rappelez-nous, alors là elles sont pas encore là, mais les étoiles filantes qui vont arriver quoi du côté du mois d'août, c'est quoi le principe d'une étoile filante?
Alors, la Terre tourne autour du Soleil, hein, on n'est pas immobile, hein, on n'est pas le centre du monde ni de l'univers, et puis donc en tournant autour du Soleil, la Terre rencontre des tas de petites poussières qui ont été léchées par les comètes en fait. Ce sont les comètes qui, en tournant autour du Soleil, elles aussi, laissent derrière elles des grands panaches de poussière. Quand je dis poussière, c'est des petits bouts de roche, des petits bouts de silicium, de silicate, etc. Des petits trucs qui font quelques dixièmes ou quelques millièmes de grammes. Mais quand la Terre arrive là-dessus à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, parce qu'on file autour du Soleil, eh bien en fait, le frottement sur la haute atmosphère va provoquer ce phénomène visuel qu'on appelle une étoile filante. Et bon, il y a des moments où on sait que la Terre passe dans des zones particulièrement poussiéreuse, et c'est vrai que à la mi-août, vers le 12-13 août, on a ce qu'on appelle l'essaim des perséides, et les perséides, c'est passer la nuit dehors entre le 11 et le 14 août, c'est l'assurance de voir des perséides, l'assurance de voir des étoiles filantes qui vont, mais certaines vont traverser le ciel entier avec un éclat qui est parfois supérieur à celui de Vénus. Donc ça, c'est toujours exceptionnel à regarder avec ses proches, avec des amis. Et puis, on passe du temps sous les étoiles, on discute de tout et de rien. Et hop, on fait un vœu quand on voit une étoile filante.
C'est ce que l'on va faire. Merci beaucoup, Guillaume Cana, pour cette actualité céleste. Moi, je vous renvoie donc au Guide du Ciel 2017-2018, édition AMDS. Et puis, on vous souhaite bien du plaisir en regardant ce ciel du midi, mais un petit peu partout en France. Et dans quelques instants, on va regarder, tenez, le ciel d'un homme qui s'appelle Jean Maison. C'est dans les Monnaies d'Hier, dans le Limousin. Juste après cette chanson.
CO2 Mon Amour sur France Inter.
Elles sont venues des montagnes, descendues des hauts plateaux, vers des châteaux en Espagne. Et des promesses d'eau. Épuisées de poussière, piétinant le destin. Quelques filles et leurs mères ont levé haut le poing. Belles et solidaires, sans jamais reculer. Dans ces moments-là, c'est la vie qui danse, dans ces moments-là, c'est la vie qui va. Dans ces moments-là, c'est la vie qui donne, dans ces moments-là, une envie de vivre. Ça se calme pendant l'hiver,
ça recommence en été. Et toutes nos paroles en l'air sont bien vite oubliées. Rester là sans rien faire, c'est bon pour l'éternité. Cette vie j'en fais mon affaire, je ne pense qu'à l'aimer. Comme on aime un amour, sans jamais s'arrêter.
Dans ces moments-là, c'est la vie qui danse. Dans ces moments-là, c'est la vie qui va. Dans ces moments-là, c'est la vie qui donne. Dans ces moments-là, une envie de vivre bien au-dessus de moi. C'est comme ça que le monde changera.
Bon, oui, bien sûr, Véronique Sanson, ces moments-là, on va en passer un très joli avec Jean Maison dans Les Monnaies.
La balade de Denis Chessou.
Oh, le beau bâtiment là, Jean. Ici dans ce comptoir d'herboristerie, il a une histoire.
On peut pas l'appeler bioclimatique, mais il est conçu suivant des proportions. Quand il fait 40 degrés à l'extérieur, il fait 20 degrés à l'intérieur. Il est entièrement fait en bois du pays, en Douglas et en mélèze, et n'a reçu aucun traitement.
Alors là, on a des odeurs fabuleuses. Je vois de la menthe poivrée, de la marjolaine, de la myrte, du noisetier, de l'origan. Alors tout ceci, évidemment, ne peut pas venir du Limousin,
j'imagine. De 3 à 5% suivant les années, qui viennent du Limousin, un peu plus large jusqu'aux Charentes-Maritimes maintenant. Et le reste vient beaucoup de production française et du monde entier pour certaines plantes, comme la badiane ou comme la verveine, qui vient d'Espagne ou du Maroc.
On a des grands classiques, bien évidemment. La vigne rouge, excellent pour la circulation, c'est ça?
Oui. Vigne rouge française, là, en l'occurrence, sur laquelle on travaille depuis très longtemps pour avoir des qualités de ramassage et des qualités propres. Puisque la vigne a un temps très court pour être ramassée au moment où elle tourne, avant de chuter, donc la feuille tombe. Ces plantes demandent beaucoup d'application. Là, c'est un caisson de déshydratation. Ce matin, ils viennent de ramasser le calendula, là. Et dans quelques jours, la plante va se déshydrater dans le noir.
Nous sommes au sud-ouest du Massif Central, on est en Corrèze, dans les Monnaidières, on est dans le parc naturel régional des Mille Vaches, donc dans cette belle région du Limousin, 800-900 mètres d'altitude, le Sucomet est au-dessus de nos têtes, et là-bas, c'est un peu comme si vous ouvrez une boîte et hop, vous avez de l'air. Alors, influence de l'ouest, oui bien sûr, mais on reçoit aussi un petit courant d'air du nord qui est extrêmement vivifiant. Notre invité, il a un beau nom, Jean Maison. Et tout petit, un homme lui a sauvé la vie, il lui a donné aussi le secret des plantes. Alors il a créé à Saint-Augustin son comptoir d'herboristerie, et dans son univers en forme d'hirondelle, l'homme a besoin de la terre, a besoin de ciel, de soleil comme de pluie fidèle pour faire pousser à la fois ses mots et puis aussi ses idées. Il est là à chercher le végétal, vous savez, un peu comme dans son berceau, et être toujours dans le mouvement de la vie, dans la transformation des choses. À la fin de l'été, dans la lande à Bruyère, celle qui résiste, vous avez un tapis rose. C'est très très beau. Et puis là, écoutez, on va partir. Il faisait chaud. On est allé chercher le frais sous les arbres qui battaient des ailes. Et cette rencontre avec Jean Maison relève vraiment du champ naturel. Suivez-nous, on est en Corrèze, dans les Monnaidières. Et là, on est devant l'un de vos champs. C'est du blé ?
C'est du blé noir. Alors, il a une particularité. C'est que c'est une variété qu'on a sauvée, qui était abandonné, qui avait subi, en tout cas dans les blés noirs locaux, de très forts mélanges, et là, et qui donnait des matières qui nous intéressaient peu, et on a réussi, en remontant les sources locales, à trouver une variété que nous utilisons à deux fins. Une, la moisson, bien sûr, pour faire le grain de blé noir qu'on utilise ici dans ce qu'on appelle le tourtou, la galette de blé noir. Et d'autre part, on travaille beaucoup sur la sommité fleurie, qui a de multiples qualités médicinales.
Oui, donc c'est coup double, on va dire.
Voilà, mais surtout, ce qui me plaît,
Bien sûr, garder une espèce.
Mais c'est de maintenir quelque chose qui est vraiment dans l'esprit du pays. Alors les monédières ont une caractéristique, c'est qu'elles ont évolué de façon extrêmement rapide à partir des années 50. Tout simplement parce qu'il y a la déprise agricole, après-guerre, ça avait commencé déjà après la guerre 14. Mais
donc les hommes sont partis.
Les hommes sont partis, les fermes sont fermées, les paysans pour vivre se sont agrandis. La production a été modifiée. Nous avions ici des fermes avec des vaches limousines, mais qui étaient à la fois 3, 4 vaches, 5 vaches, 10 vaches dans les plus grandes exploitations sur le petit territoire. Et surtout, c'était l'agropastoralisme, et qui était l'héritage, là par contre, de siècles et de siècles, l'agropastoralisme. Et la bruyère, la lande à Calune, que nous évoquons aujourd'hui et qui est très fortement menacée, cette lande à Calune,
c'est le cours du mouton.
C'est ça. Mmh. Et c'est l'adéquation entre un univers végétal et une pratique agricole. Mmh. Et avec la fin du pastoralisme et l'intensification des herbages, nous avons perdu progressivement la lande. Puis est venu se greffer là-dessus, ce qu'on peut comprendre par ailleurs, la nécessité de rentabiliser le territoire avec les plantations massives, la sylviculture qui a été mise en place, et qui progressivement a remplacé la lande. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la lande, se sont développées évidemment toute une faune, une flore, et surtout un certain type de paysage qui conférait au territoire un espace extrêmement ouvert, embrassable. Parce que ça reste une montagne qui est à portée d'homme, qui est embrassable. Ouais. Et quand on est face à cette grande ouverture, ça réjouit quand même.
On est sur un sous-sol quand même qui est extrêmement riche.
Vous le voyez au témoignage des maisons, qui sont ces maisons de pierre, de taille, ces maisons de granit. On est passé au village de Fresselines tout à l'heure. Vous avez vu ce qu'on appelle la maison des Anglais, qui est une merveille d'architecture. 16e, 17e, on a des témoignages bâtis qui montrent justement à la fois l'intelligence paysanne. Regardez ce morceau de mur, on s'arrête devant ce morceau de mur. Mur en pierre sèche, bâti comme ça vient, mais avec l'intelligence de la pierre et l'intelligence de l'homme. C'est-à-dire que, et en plus là on a l'intelligence de la mousse. Et ces trois intelligences qui donnent tout d'un coup quelque chose de magnifique, de beau, d'harmonieux. Et l'homme a compris l'usage et le parti qu'il pouvait tirer de son espace, comme il l'a fait de par le monde d'ailleurs.
Alors aujourd'hui, avec le comptoir d'herboristerie, quel sens vous donnez, vous, à ce passage sur Terre?
Provisoire.
Oui.
La plante, c'est la vie. La plante est toujours vivante. Et notre travail, c'est d'aller chercher le végétal dans son berceau, dans sa nature, et faire en sorte que cette plante reste dans une énergie qui est son énergie première, de façon à ce que la personne qui à un instant T va boire sa tisane rencontre quelque chose, un petit événement, ce tout petit événement, et c'est là où nous pouvons être utiles dans cet accompagnement-là.
Qu'est-ce qu'elle est claire, Jean, cette eau hein ?
Elle est translucide, on voit les sables, on voit les graviers, on voit la... Et tu vois, là, on est à vif, sur le rocher, puis on passe dans des gravières, et on a des petits gours, on a les enracinements, on a ce pont, ce petit pont en pierre qui a été posé comme ça. Ce sont des lieux qui sont à notre portée. On va mettre les pieds dans cette eau, elle va être froide, elle va nous saisir, mais elle va nous faire du bien. Le dialogue s'installe immédiatement.
Quelle est votre réflexion aujourd'hui sur l'écologie qu'on voit ?
Ce qui manque à l'écologie aujourd'hui, dans ma réflexion que je porte, c'est qu'il me semble qu'on peut fabriquer une écologie matérialiste, c'est-à-dire une mécanique C'est-à-dire que nous nous concentrons sur notre bien-être, notre forme, notre beauté.
Notre moi, quoi.
Notre moi. Oui. Notre, oui. Écologie, elle doit venir du cœur, elle est cordiale. Et d'autre part, l'écologie, elle est aussi dans le bon sens. Il faut revenir à la tradition paysanne de l'observation, du comportement, de la sensation, de l'impression personnelle. Et ça, il faut se le laisser vivre, il faut pouvoir donner cet accès au plus grand nombre. D'autre part, nous avons une dimension spirituelle qui est absente. Or, on ne résout pas toutes les questions par la mécanique. Il manque une dimension dans cette écologie qui devrait tenir compte de valeurs qui sont beaucoup moins distinguables, beaucoup moins évidentes, mais qui pourtant sont évidentes en notre fort intérieur. Et justement, la nature est là pour nous faire douter. D'abord douter de nous-mêmes et nous renforcer, quand on l'observe finement, de notre vulnérabilité à tout niveau. Quand on est au sommet des Monédières ou au creux d'un chemin, à un moment, nous pouvons nous abstraire et nous regardons ce que d'autres ont vu hors du champ matériel. Et nous sommes en présence de l'être dans son intemporalité. Et nous sommes nourris de façon indirecte par tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous englobe. Et si on se met à disposition, si on se met dans l'odeur, là bientôt la bruyère calune va refléter cet arôme de miel, c'est une véritable bénédiction. On va être nourri, soigné dans notre petit quotidien. Nous sommes des bien portants, pour ceux qui le sont bien sûr, mais qui ont besoin d'être guéris.
Et on revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire que on peut pratiquer ici une écologie de l'âme.
Oui, on peut pratiquer une écologie de l'âme. Et quand nous prenons le temps de retrouver cette spontanéité du pas, ce retour naturel de la respiration, de dégager un peu les épaules, cet arbre qui n'est pas beau, cet arbre pas beau, par rapport à quoi ? Eh bien, parce qu'il n'a pas un fût extrêmement droit, etc. etc. Mais cet arbre, il a pourtant sa valeur, sa présence, et il procède à la concordance. Et l'homme là-dedans n'est pas un intrus. L'homme là-dedans est bienvenu quand il reste à sa place et qu'il fait ce... Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut jamais couper d'arbre.
Non.
Je ne suis pas un adversaire du progrès.
Non, c'est juste le balancier qui est parti un peu trop loin. C'est
voilà.
Tout. C'est beau tous ces verres là qui sont... C'est beau, là, toutes ces nuances de mousse, bon, ce qui nous donne une indication quand même au niveau de la pluviométrie. Hein,
oui.
on reçoit quand même ici.
Ah oui, Dieu merci.
Et alors justement, l'agriculture en a besoin. Et comment vous voyez donc vous cet avenir ?
Aujourd'hui, nous représentons 4% de la population agricole. Il faut que l'agriculture biologique reflète une véritable révolution agraire qui me semble absolument nécessaire. Mais pour ça, il ne faut pas en parler de façon radicale. Il faut prendre le monde comme il est. Et prendre le monde comme il est, c'est de considérer qu'aujourd'hui, nous sommes encore ultra-minoritaires. Mais la paysannerie, c'est ce qui a modélé le territoire. Et aujourd'hui, il faut intégrer ce paramètre écologique sur du très long terme. Il faut donc que l'industrie, les acteurs de l'ensemble des filières considèrent que la matière première, la ressource, c'est l'élément clé fondamental de la vie de demain. À la fois du bien-être et de la nourriture et de la santé des individus. Et cela va créer ou renforcera la position de l'agriculture, de l'agriculteur dans son territoire. Puisque ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est la déprise agricole, en moyenne montagne, en montagne, la perte d'intérêt, la recherche d'une hyper-rentabilité qui, de toute façon, tôt ou tard, on finira toujours par trouver des gens qui feront encore moins cher que nous, alors on va jusqu'où ? L'agriculture biologique, ça n'est pas un retour en arrière, c'est le lancement de quelque chose de nouveau vers une société nouvelle, qui intégrera à la fois la conscience d'une agroécologie qui est responsable vis-à-vis de ceux qui viendront après nous, qui boiront l'eau de nos rivières, qui mangeront le pain de nos champs, etc. Mais également de la valeur culturelle du territoire. Parce que la valeur du territoire, c'est la valeur du paysan. Aujourd'hui, nous, avec nos tisanes, on offre
de l'eau chaude ou tiède, voire de l'eau froide. On peut dire, on vous invite à mettre une petite, un petit peu de citron, une goutte de citron frais ou un peu de miel. Et on dit, vous allez avoir une boisson avec une plante dont le goût, vous allez devoir l'établir ce goût. Vous allez devoir le rechercher puisqu'il ne va pas vous provoquer, il ne va pas vous agresser. Il ne va pas venir vers vous comme quelque chose comme ça, là, qu'on vous assène comme un coup de maillet. Aujourd'hui, nous avons des boissons hyper agressives autour de nous. Et nous avons formé notre goût à cette forme d'agressivité et cette surenchère dans l'arôme. De façon à quoi ? À masquer quoi ? Notre peut-être incapacité à distinguer la subtilité et la nuance d'une infusion de tilleul des baronnies, ou de thym sauvage des garrigues de Sisteron, ou de la bruyère des monédières. Donc, là comme nous dans ce chemin, ces fleurs de châtaignier tombantes qui sont en fin de chemin de leur vie de fleurs, mais qui nous offrent là une subtilité aromatique qui est sans borne.
Bon, que peut-on vous souhaiter, Jean, maintenant que nous soyons disponibles au moins un tout petit peu tous les jours, même dans les villes, parce qu'il y a des beautés dans les villes. Oui. Et parfois, elles sont plus visibles dans les villes que pour certains qui vivent à la campagne et qui ne les voient plus. Hélas, bien que les cœurs s'ouvrent et que nous soyons en situation de transmettre.
Jean Maison, donc un entrepreneur à la sensibilité écologique affirmée, vous l'avez très très bien compris, et goûter ses plantes, c'est goûter évidemment un petit peu son histoire. Et cet homme donc qui ensemence, on va dire, de très très jolis mots et sa sensibilité, donc ce massif des Monédières en Corrèze. Dans quelques instants, ce sera Éric de Kermel avec nous, avec la librairie de la Place aux Herbes. Oui, ouais, c'est presque une thématique.
Tout est gris. l'été, j'aperçois le soleil. Les nuages filent, la chair s'éclaircit. L'aile dans ma tête qui bourdonne les abeilles. J'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil. Les nuages filent, la chair s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été.
Ah, vous voulez le mesurer? Vous avez peur qu'il aille pas dans la poêle, hein?
Ah, 34 centimètres.
Il est bon.
CO2, mon ami.
Ainsi, vous ignorez le décret du mois d'août 1939.
Hein?
Le décret, oui, monsieur, qui réglemente la taille légale des poissons d'eau douce. Exemple, de l'extrémité du museau au milieu de l'échancrure de la queue, un brochet ne doit pas mesurer moins de 35 centimètres. Et ça, vous le saviez pas, hein?
Ah non?
Sur France Inter.
Oui, mais là, ça va assez bien parce que le livre d'Éric de Kermel doit faire à peu près une vingtaine de centimètres. Donc, il fait la maille et ça va très très bien. Bonjour Éric de Kermel.
Bonjour Denis.
Éric de Kermel, vous êtes le directeur du magazine Terre Sauvage. Nous collaborons depuis des années donc ensemble avec CO2 Mon Amour. Vous êtes aussi à l'origine de la création de la Fête de la Nature. Vous avez porté avec Nicolas Hulot le Sommet des Consciences dans le cadre de la COP21. Et puis, vous êtes aussi écrivain parce que vous avez sorti La Libraire, et non pas La Librairie, La Libraire de la Place aux Herbes, qui se trouve d'ailleurs effectivement à Uzès, dans le Gard. C'est un régal, hein, parce que vous aimez vraiment, vraiment ce lieu. Ça a été préfacé par Eric Orseda. Et là, vous êtes mis dans la peau, en fait, d'une libraire, Nathalie. Et alors, ce personnage qui a quand même une sensibilité environnementale, décrivez-la nous, s'il vous plaît.
Bon, Nathalie est une prof de lettres parisienne qui un jour décide de quitter Paris parce qu'elle a du mal, elle a élevé ses enfants à Paris et en fait elle fait le choix de s'installer avec son mari à Uzès. Et en fait très rapidement elle se rend compte que quand on a fini la déco de sa jolie maison en Provence, on se retrouve un peu face à un vide et que les enfants étant partis, elle cherche un lieu qui soit un lieu qui lui permette de s'exprimer et de porter ses engagements et notamment ses engagements écologiques. Et du coup, un jour, elle se rend compte que la librairie qui se trouve Place aux Herbes à Uzès, dans le cœur d'Uzès, est à vendre et elle décide de devenir libraire.
Et alors, chaque chapitre est dédié à un de ses clients et ça vous permet en réalité d'aborder différents grands thèmes qui sont liés à une forme d'écologie humaniste.
Voilà, ce que j'avais envie en fait, c'était de trouver des personnages qui sont soit des gens qui poussent la porte de sa librairie pour acheter un livre, ou sinon des gens qu'elle rencontre dans les ruelles d'Uzès. Et chaque personnage me permet d'aborder les thématiques qui sont celles de l'écologie, ce qu'on appelle l'écologie intégrale. Et en fait, j'avais envie, en passant du côté de la fiction, moi qui suis plutôt journaliste, de porter en fait ces thématiques et de montrer à quel point, à un moment, ce que Abdennour Bidar appelle un fil sacré, un fil d'or sacré, se tisse quand on travaille à la fois dans son rapport à soi, son rapport à l'autre et son rapport à la nature, se tisse alors un chemin de cohérence et j'avais envie que chacun de mes personnages puisse porter ces éléments-là. Alors on va avoir celui qui est plutôt qui va nous parler du pastoralisme, de l'enjeu des milieux ouverts, de l'importance d'une biodiversité qui soit une biodiversité comme on peut la trouver sur ce territoire des Garrigues d'Uzès. J'avais envie aussi de raconter de porter en fait une certaine image des circuits courts, de la relation qu'on peut avoir avec celui qui est le commerçant dont on croise le regard sur le marché et qui en fait quand on mange ensuite son abricot ou ses carottes en fait on mange un peu du regard de celui qu'on a croisé. Donc c'est tout ce champ de l'écologie intégrale que je porte derrière des personnages qui sont tous des personnages de fiction mais bien ancrés dans l'ensemble des sujets qui me sont chers.
Derrière ce mot d'écologie intégrale, qu'est-ce que vous mettez précisément ?
L'écologie intégrale, en fait, il y a un enjeu que l'on peut constater quand chacun on commence à tirer un sujet de l'écologie. Je vais prendre par exemple celui des cantines. Quand on se retrouve face à la question de l'alimentation de nos enfants et qu'on regarde ce qu'il y a dans nos assiettes, à un moment se pose la question de savoir d'où vient ce qu'il y a dans leurs assiettes. C'est ce qu'a très bien montré le film Nos enfants nous accuseront, qui se passe à Barjac,
à quelques pas, juste à côté d'Uzès.
Voilà, quelques pas d'Uzès. Ouais. Et du coup, un
un moment, ça questionne sur moi-même dans la famille. Qu'est-ce que je donne à manger à mes enfants? Où est-ce que je l'achète? L'enjeu d'acheter de saison, je veux dire, d'avoir des produits qui sont des produits de proximité. Et à un moment, on se rend compte qu'il y a tout un fil qui est un fil qui fait qu'on remet en question aussi sa manière de voyager, sa manière d'aller en vacances, les choix que l'on fait d'hébergement. Et du coup, ce petit fil de cohérence, moi je trouve fantastique de commencer à le tirer par un bout ou par un autre. Chacun trouve à sa porte, c'est-à-dire le bon chemin pour pouvoir commencer une démarche d'écologie personnelle. Mais on se rend compte à un moment que tout est intimement lié. Et donc c'est ce lien entre les choses que je retrouve derrière la notion d'écologie intégrale.
Et alors derrière tout ça, il y a évidemment Ode à la lecture, hein, donc une sorte de bibliothèque idéale que vous recommandez donc aux lecteurs. Éric Orsenna qui a fait la préface de S'il n'est pas trompé. Je rappelle que c'est aux éditions Erol, hein, bien sûr, votre livre. Comme vous êtes aussi donc le directeur de Terre Sauvage, allons-y sur le mois de juin, là, parce qu'on est encore au mois de juin. Donc ça, c'était les volcans. Sur le mois de juillet, ça va être quoi? Ça va être les félins.
Ça va être les félins. On a un numéro intégralement consacré aux félins. Et c'est un très beau numéro de Terre Sauvage, où notamment on suit une famille de lions, une troupe de lions en Afrique australe. Et donc c'est à la fois un tour du monde des félins, tout en images, comme d'habitude dans Terre Sauvage. Et puis ce zoom particulier sur cette troupe de lions qui est un joli moment.
Alors là, c'est pas un lion. Il a été un peu escaladeur, mais malheureusement, il était tombé. C'est Tesson, Sylvain Tesson, qu'on aime beaucoup. Donc traverser de la France à pied, ça va être le numéro du mois d'août.
Voilà, numéro du mois d'août, où en fait, on a travaillé avec Sylvain Tesson à choisir un certain nombre de territoires forts en matière de biodiversité, de manière à ce que nous, on puisse travailler avec nos photographes pour raconter ces territoires. Et on reprend ensuite avec lui des chroniques qu'il a bien voulu travailler avec nous pour le numéro 12 de Terre Sauvage.
La libraire de la place aux herbes, régalez-vous donc avec cet ouvrage cet été aux éditions Erol. C'est signé Éric de Kermel. Cher Éric, merci beaucoup. Jean-Marie Pell, vous connaissez.
Ah, bien sûr.
Et alors, j'ai retrouvé ce petit son, je crois qu'on ne l'avait pas diffusé. C'est sur l'été. Et avec Jean-Marie, ça commence. Bien sûr par un bonjour, mais quand même, sur l'été, on y est allé directement.
Vous avez remarqué probablement que l'été suit le printemps.
Oui.
Ça là.
Merci Jean-Marie.
Bien. Alors, l'été commence au solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin, jour de la fête de la musique, que la France a offert au monde entier.
Oui.
Merci Jacques Lang.
Tout à fait.
Très bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant, c'était le 24 juin, pour la Saint-Jean, qui était la grande fête de l'été. Oui. Mais voilà, la Saint-Jean, ça tombait un peu après le solstice. Pourquoi ça tombait après le solstice? Pourquoi ça tombait quand les jours commençaient lentement à diminuer? Parce qu'il y a dans l'Évangile une phrase qui dit, à propos de Jean-Baptiste, « Il faut que je diminue pour que lui grandisse ». Lui, c'est le Seigneur.
Oui.
Alors on a fixé Noël un peu après le solstice d'hiver, quand les jours grandissent, et on a fixé l'été un peu après le solstice d'été, quand les jours diminuent. C'est comme ça que ça a été décidé à l'époque. Mais du point de vue astronomique, c'est le 21 juin. Alors il s'est produit pendant tout le printemps que la nature s'est réveillée et qu'on est entré dans une phase d'intense production. Production de matières végétales. En gros, on estime que pendant les deux mois d'avril et mai, et un peu juin encore, la nature a produit 150 milliards de tonnes de matières vivantes séchées. C'est beaucoup, hein, 150 milliards de tonnes. Alors, sur un hectare d'une forêt française à feuilles caduques, c'est en gros 13 tonnes. Sur une forêt de sapins, de conifères, c'est un peu plus, c'est 16 tonnes.
Mais en forêt tropicale,
22 tonnes. Ouais. Et un marécage, un vrai marécage, c'est 40 tonnes, parce que ce sont les zones les plus productives. Les marais du Mont-Saint-Michel, par exemple, où les obiones sont très, très, très serrées, très, très denses, ce sont des petites plantes pas très hautes, mais qui sont très serrées, très denses, on atteint pratiquement 40 tonnes, c'est énorme. Donc une productivité tout à fait considérable. Et puis alors, à la fin du printemps, on est passé en même temps à la reproduction, c'est-à-dire à la fabrication des fleurs. Donc il y a la production et il y a la reproduction. Et en été, c'est la reproduction qui va prendre le dessus, parce que la production, c'est fini.
Oui.
On ne fabrique plus de matière vivante pendant l'été. Et la matière vivante, les feuilles en l'occurrence, ont tendance à s'assombrir à la fin de l'été. Pourquoi ? Elles sont très vert tendre au printemps. Pourquoi c'est pas vert tendre à la fin de l'été? Parce que les feuilles attrapent l'artériosclérose. Parce que des substances nocives se déposent dans leurs vaisseaux et qu'elles seraient condamnées à mort si leur vocation n'était pas de tomber en automne. Il y a aussi, en été, quelque chose qui se produit et qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas, c'est la production des bourgeons qui se fait entièrement pendant l'été. Et ces bourgeons vont rester fermés, petits, enrobés dans des écailles pendant tout l'été et pendant tout l'automne et pendant tout l'hiver. Et ils vont se réveiller quand ils auront eu une certaine dose de froid, ce qu'on appelle la vernalisation. Et ils se réveilleront par conséquent au printemps. Donc l'été, c'est la période où la reproduction, la continuité de la vie est au cœur de l'affaire. C'est aussi la période où les fruits vont apparaître, à la fin de l'été, au début de l'automne. Alors tout ceci est extrêmement différent selon les espèces. Il y a des espèces qui sont très tardives, d'autres qui partent très tôt, en fonction des données météorologiques et climatologiques. Il y a des plantes qui arrivent à faire leur cycle complet en des temps très très courts. La rose de Jéricho, c'est une plante qui pousse dans les déserts. Entre le moment où, après une pluie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie, la graine commence à germer, et le moment où les fruits tombent par terre, tout le cycle dure 8 jours, ce qu'on appelle les éphémères. Quand on parle des éphémères, on pense aux insectes, qui ont des vies très très courtes. Il y a des insectes qui vivent pendant 24 heures
seulement. Qui patinent sur l'eau.
Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Alors, chez les plantes, les plantes à cycle très court, ce sont effectivement les éphémères. Alors, il y a aussi les annuelles. Les annuelles, elles font tout leur cycle pendant la période d'été. Elles germent au printemps. Elles font leurs tiges feuillées et leurs fleurs en début d'été ou à la fin du printemps. Elles forment leurs fruits en automne et elles meurent. Donc elles ont un cycle qui n'est pas gêné par l'hiver. C'est une des astuces inventées par les plantes pour vivre dans des régions où les hivers sont froids. Et non seulement elles ont réussi à s'adapter ainsi, mais mieux encore, c'est qu'elles ont besoin de froid. Oui. Elles se sont tellement bien adaptées que si elles n'ont pas de froid, elles sont malheureuses. Donc les graines vont être vernalisées par l'hiver pour qu'au printemps suivant, elles regerment de nouveau. Donc dans nos régions tempérées où il y a de forts hivers, les annuelles sont extrêmement favorisées et font tout leur cycle en été. Alors il n'y a pas d'été. Dans les forêts tropicales, il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'automne, il n'y a pas d'hiver. C'est pareil toute l'année. Les arbres font leur cycle individuellement. Les uns perdent leurs feuilles au mois de février, les autres perdent leurs feuilles au mois de mars, les autres perdent leurs feuilles au mois de décembre. Certains ne perdent pas leurs feuilles tous les ans, mais tous les 3-4 ans. Chaque arbre a son cycle propre parce qu'il n'y a pas la marche des saisons. La marche des saisons, c'est ce qui entraîne la végétation dans nos pays tempérés, avec une sorte de marée montante pendant tout le printemps, avec le côté un peu étal pendant l'été, et avec le déclin pendant l'automne.
Jean-Marie, c'est aussi une période où on fait les foins pendant l'été.
Oui, on fait les foins, et là, il ne faut pas les faire trop tard, il ne faut pas laisser l'herbe trop longtemps, parce que elle attrape aussi l'artériosclérose, et elle durcit. Et le bétail n'aime pas trop quand l'herbe est trop dure. Le bétail, il est comme nous, il aime l'herbe douce. Nous aimons la salade parce qu'elle est douce. Nous ne pourrions pas croquer les feuilles de n'importe quel arbre parce que c'est raide. Eh bien, c'est pareil. Par contre, alors, la paille, là, effectivement, quand on coupe les graminées, les céréales, la paille, elle est mûre. Mais la paille n'est pas consommée par le bétail comme est consommé, évidemment, le foin. Le foin, donc, c'est une production de début d'été.
Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cet été, lorsque vous êtes en Lorraine, par exemple ?
Ah, c'est que je peux travailler dehors, c'est que je suis dans mon jardin, c'est que je regarde les roses, parce que je suis complètement entiché des roses, et que j'écoute le silence, parce que dans mon jardin, il n'y a pas beaucoup de bruit, j'écoute le silence. Et alors, je me trouve mieux qu'en ville, où on fait beaucoup de travaux en ce moment. La ville est très belle, mais c'est très beau. Maintenant, il y a Pompidou, en plus, le oui, musée. Alors, il y a des processions qui vont plus à la cathédrale, mais qui vont au musée maintenant. C'est un monde fou. Mais je trouve que c'est trop agité. Dans mon jardin, c'est paisible, c'est doux, c'est calme. Et j'écris des livres. Voilà.
Et vous regardez les mirabelles pousser, mais il faudra les attendre un petit peu. Quand... Ah non, à la fin de l'été, en fait, on y est.
Ah, là, les mirabelles, c'est... Oui, oui. C'est où? C'est où, c'est hein? Ça, c'est le mois d'août. C'est un fruit de l'été, ouais, en effet. Oui, parce que l'automne commence le 21 septembre.
Des feux de la Saint-Jean à Jean-Marie Pelt dans son jardin, donc un petit inédit retrouvé l'autre jour sur l'été, voilà, petit fil conducteur. Et puis aussi bah, vos messages, 01 56 40 40 35.
Salut Denis et toute l'équipe de CO2. Ça tombe bien le CO2, les arbres en sont de grands consommateurs. Et à Nancy, nous les aimons et leur disons merci pour leur aide dans la bataille contre le réchauffement climatique. En 2013, la première édition d'Embranchement rapprochait le public des cimes pour une nouvelle approche de ces êtres tellement vivants, étonnants et passionnants. Rançon du succès, la récidive était inévitable. Résultat, du 19 au 25 juin, la direction des parcs et jardins de la ville de Nancy propose Embranchement 2, le retour. Dans le parc de la Pépinière, 21 hectares en plein centre-ville quand même. Nous avons choisi arbre et architecture comme thème d'une semaine entière dédiée à l'arbre. Comment habiter avec lui, l'intégrer dans notre habitat, lui donner toute la place qu'il mérite dans nos vies? Et bien pour cela, les équipes d'architectes, des scientifiques, des experts, mais aussi des artistes et des plasticiens, dialoguent avec les visiteurs pendant 7 jours au cœur même du parc. Et si vous voulez plus d'infos, et bien c'est simple, vous allez faire un tour sur le site internet de la ville. À très bientôt.
Voilà, on était en Lorraine hein, avec Jean-Marie Pelt chez lui du côté de Metz, et bien là c'était Nancy. Donc Embranchement, un autre message.
Bonjour aux auditeurs et auditrices de CO2 Mon Amour. Les 1er et 2 juillet à Montreuil, dans le 93, nous organisons les estivales de la permaculture. 2 jours pour faire découvrir la permaculture à un large public. Au programme, des ateliers pour petits et grands, des conférences, des stands pour rencontrer les acteurs locaux de la permaculture, des concerts ou bien encore des visites dans les jardins historiques des murs à pêche. Venez écouter Franck Mathier pour tout comprendre sur la permaculture humaine et la conception de forêts nourricières. Françoise Percolet vous dira tout sur les batraciens. Le botaniste Christophe Béhédi vous emmènera en balade à la découverte des plantes sauvages comestibles. François Lasserre vous fera découvrir le monde insoupçonné des insectes et leur rôle dans nos écosystèmes. Bram Thaï, l'Association nationale de permaculture, vous expliquera tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet. Et samedi soir, une projection du documentaire Conspiracy sur l'impact de l'élevage et les lobbies insoupçonnés qui œuvrent en secret. Alors venez nombreux et nombreuses profiter de ce riche programme les 1er et 2 juillet à Montreuil. À bientôt.
Oui, on a anticipé parce qu'évidemment on ne sera pas là. Donc à cette période-là, une séquence que nous aimons beaucoup. Maintenant on picore dedans avec Elisabeth Combre. Et c'est quand la nature inspire les écrivains, donc de son livre hein, qui est sorti aux éditions Plume de Carotte. Et là, écoutez cette voix.
Je suis né en Provence par hasard, parce que mon père et ma mère s'y sont rencontrés, s'y sont mariés. Autrement, ma mère était parisienne, d'un père provençal évidemment de Manosque, et mon père était, pourrait-on dire, né en Provence, puisqu'il est né à Saint-Chamas, mais de père et de mère italienne.
Piémontais,
oui. Par conséquent, tu vois, il n'y a pas d'origine très, très provençale. Mais j'aime ce pays.
Une eau qui est rare, une terre qui est aride, évidemment, la Provence comme pivot. Vous avez reconnu donc la voix de Jean Giono, et donc Giono, quand la nature inspire les écrivains, et Elisabeth Combre, j'ai presque dire que ça va de soi, donc avec cette Provence qui est là, cette Provence majeure.
Bonjour Denis. Jean Giono, hein, oui, sa vie et son œuvre tournent autour de la Provence, mais Giono c'est avant tout un conteur, hein, la Provence qu'il raconte, elle n'existe pas. Mmh. Sa nature provençale, c'est une nature imaginée, elle dit un territoire de fiction, à la manière de cet écrivain américain, William Faulkner, dont on parlera. Mmh. Dans ses premiers romans, effectivement, en 1929, c'est Colline qui le révèle. Et dans ce livre et les deux suivants, qui forment la trilogie de Pan, Giono dit la difficile relation entre les humains et la nature. Elle est tourmentée, la relation de Giono à la nature, dans un grand nombre de ses livres. C'est une relation empreinte de passion et de violence, de possession et de mort. La nature est magique. Hein. Giono en appelle au dieu Pan, le dieu grec des bergers et des bois, et le dieu cornu et velu. Il fait référence à Homère, à Virgile. Sa nature est puissante et elle punit ceux qui ne la respectent pas. Il associe la nature, la terre, à la mer, l'océan en colère, et aussi à la mère, à la femme. Il a une sorte de peur d'être dévoré, une peur d'être englouti. Et il va jusque dans des relations sombres. Et c'est la phrase du conteur qui emmène le lecteur au cœur de cette noirceur. Et elle se doit d'être belle.
Alors c'est vrai que c'est un homme aussi, il faut le dire, que lorsqu'il nous dépeint sa Provence, c'est pas du tout celle de Pagnol. Hein. Ça peut être aussi une Provence alors, pleine de soleil, d'accord, mais c'est une Provence aussi qui peut être noire. Alors il y a quand même aussi, ce qui est important, ça a été aussi ce lieu du Contadour, puisque donc entre les deux guerres, donc cet homme-là, on sait qu'il était pacifiste. Donc dans cette montagne de Lure, c'est là qu'il recevait, qu'il discutait avec des intellectuels.
Le pacifisme, ça vient de sa participation à la guerre de 14-18. Ouais. Hein. Il en a tiré un livre qui raconte les humains pris dans la guerre comme un troupeau mené, si ce n'est à l'abattoir, en tout cas à la mort. Et pendant l'entre-deux-guerres, effectivement, entre 1935 et 1939, il organise des rencontres dans la montagne de Lure. Il veut renouer avec ce lien apaisé avec la nature, il veut reformuler cette quête d'un âge d'or, énoncé par Virgile toujours, qui inspire beaucoup Giono, du berger poète et puis du paysan qui trouve le bonheur en travaillant la terre. Pour Giono, l'homme qui plante est en lien avec les transformations vitales, la germination, la renaissance. Et il y a un livre qui a marqué les esprits depuis...
L'homme qui plantait des arbres.
Voilà. Donc écrit en 1953. Alors, c'est un livre un peu en marge de l'œuvre de Giono, hein, mais dans ce livre, donc, qui est une commande, sur ces hommes formidables que j'ai rencontrés. Et Giono, au lieu de parler d'un homme réel, va inventer un berger qui redonne vie à un paysage désertique à force de patience et d'obstination. Il passe plus de 30 ans de sa vie à planter des glands qui donneront une forêt et qui elle-même va grandir et permettre au village de se développer autour.
Et puis Elisabeth, on peut dire en fait qu'il y a eu une rupture aussi chez Giono, c'est-à-dire qu'il y avait cette nature magique que l'on a découvert donc avec Colline, Roguin, Beaumugue et puis d'autres livres. Et puis après, donc, il a écrit vraiment des fictions. Alors il y avait toujours la nature, hein, c'est toujours extrêmement important, mais quand même, là c'était, il s'est davantage peut-être intéressé aux humains qu'aux paysages.
Il y a eu la rupture de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la prison, il y a eu ce texte sur Melville hein, qui parle d'Herman Melville mais qui dit aussi la vision de la littérature de Giono lui-même et qui dit l'urgence de se renouveler. Il va s'attacher à la psychologie des personnages, il va s'intéresser à Machiavel et donc il va parler de ces personnages mais avec une nature qui a un rôle important.
Et de toute façon chez Giono, bah en fait la nature contient toute la vérité du monde, d'ailleurs vous l'écrivez, les joies et les souffrances humaines, les secrets de la terre et des éléments la mort et l'éternité. Voilà, donc si on retire la nature de Giono, on n'a plus le même bonhomme, hein, ce ne sera pas la même chose.
Voilà.
Grand merci à vous Elisabeth Combre, et puis donc je vous renvoie à cet ouvrage « Quand la nature inspire les écrivains », c'est aux éditions Plumes de Carotte. Au revoir Elisabeth.
Merci Denis, à bientôt.
Et puis je précise qu'il y a une nouvelle collection qui est sortie toujours aux éditions Plumes de Carotte, qui s'appelle « Esprit de nature », et entre autres, eh bien vous avez Georges Sand. Merci de nous avoir suivis pendant ce voyage qui a été fait d'étoiles, de monédières, d'une libraire d'Uzès, d'un été Jean-Marie et de Giono. À la technique, il y avait Maxime Ingrand aujourd'hui, aussi Pascal Bénard qui a mixé donc le reportage réalisé par Xavier Pestugia sur les monédières. Donc Camille Blanès, notre assistante, Xavier qui réalise l'émission, Muriel Pérez à la programmation musicale, Anne Gouzon qui nourrit les sites. Et puis que vous dire, que l'on va se retrouver du 1er au 23 juillet à 8h55 dans un autre exercice, et oui, de 3-4 minutes, et je vous parlerai Tour de France à ma sauce. Voilà, donc un tour en France, ce sera du 1er au 23 sur France Inter toujours, donc on va changer de registre et on se retrouvera bien sûr à la rentrée avec CO2 Mon Amour. La Tulu Bon Petit Loup, ce sera demain 19h55 après Les Petits Bateaux et dans quelques instants la librairie francophone de l'ami Emmanuel Carrade.